Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les évêques français appellent le gouvernement à prendre en compte le message envoyé par les centaines de milliers de manifestants qui ont défilé à Paris dimanche dernier contre le mariage homosexuel. Ils demandent que les parlementaires proposent des solutions et des formulations qui soient respectueuses du caractère hétérosexuel du mariage, de la filiation et des personnes homosexuelles. Ouverture de l'assemblée plénière du conseil pontifical Coronum à Rome, le cardinal Sarah revient sur les enjeux anthropologiques de l'aide au développement, en particulier pour l'Afrique. Crise en Irlande du Nord, les esprits sont encore loin d'être apaisés. Nous entendrons le point de vue d'un prêtre catholique curé dans une paroisse de Belfast, ville où se concentrent les violences. Le Vatican, transformé en ferme à l'occasion de la Saint-Antoine du désert, patron des animaux, le cardinal Comastri, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, a béni plusieurs dizaines d'animaux. Reportage dans ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est le sujet qui divise les Français depuis plusieurs semaines. Le projet gouvernemental ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le Parlement français a commencé son examen en commission cette semaine et le président François Hollande a réaffirmé que c'était aux parlementaires de se prononcer dessus. Pas question donc de convoquer un référendum. Pourtant, le projet, loin de faire l'unanimité, comme l'a démontré la manifestation de dimanche dernier qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes à Paris. Dans le sillage de ce rassemblement, les évêques français ont interpellé le président de la République. Dans un communiqué, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France rappelle que les évêques ont alerté le gouvernement depuis de longs mois sur le risque de clivage profond que représentait ce projet de loi. Un clivage malvenu, précise-t-il, dans une période de fortes difficultés économiques et sociales. Or, une majorité politique ne peut ignorer les réactions que suscite chez tant de nos compatriotes le projet d'une telle réforme de civilisation, poursuivent les évêques. La mission du politique est ainsi d'offrir, selon eux, le cadre d'une authentique réflexion sociale sur ces questions majeures que sont la transmission de la vie et la nature des liens humains. Fin de citation. Les évêques invitent donc le gouvernement français à revoir sa copie. Alors certes, l'épiscopat s'est déjà exprimé sur le sujet, mais pourquoi les évêques ont-ils décidé de s'exprimer ainsi et maintenant ? Olivier Tosserie a posé la question à Mgr Hippolyte Simon. Il est archevêque de Clermont, vice-président de la Conférence des évêques de France.
C'était normal, nous étions réunis en conseil permanent lundi, mardi et mercredi. Et donc nous avons essayé de relire ce qui s'était passé dimanche dernier. Donc nous avons dit trois choses. Donc nous avons pris acte du grand succès populaire de cette manifestation. Et donc là où nous avions alerté en disant il y aura sans doute des réactions à ce projet de loi, nous avons pris acte des réactions massives de la population et des associations et de l'ensemble des personnes qui ont travaillé le projet et qui se sentent concernées. Et puis, deuxièmement, nous avons dit, maintenant, la balle, si je puis dire, est du côté des responsables politiques, en particulier du Parlement. Et nous appelons à ce que les députés, en particulier, tiennent compte de ce que cette manifestation a dit. Et troisièmement, nous invitons les catholiques, pour notre part, à continuer de réfléchir. Parce qu'un des grands acquis de cette manifestation, c'est qu'elle a provoqué des débats souvent très approfondis sur le mariage, sur sa signification. Et donc nous demandons que ce travail de réflexion soit fait et soit continué.
Est-ce qu'une autre caractéristique de cette mobilisation contre le mariage homosexuel, ça n'a pas été également d'impliquer plus l'Église dans le débat public ?
Oui, l'Église, mais surtout les fidèles laïcs. Ce sont des associations de fidèles laïcs qui ont pris l'initiative de ces débats dans les communes, dans les paroisses, dans les diocèses, et qui ont pris l'initiative aussi de l'organisation de la manifestation. Donc ça, c'est une grande caractéristique. Ce sont des associations de fidèles laïcs, mais pas seulement des fidèles catholiques. Il y a aussi des citoyens français de toutes sortes qui se sont sentis concernés et qui ont rejoint cette manifestation.
Est-ce que vous n'avez pas peur que cette manifestation soit juste une manifestation de témoignage et qu'elle n'influe pas vraiment sur les choix politiques ?
Déjà, d'ores et déjà, elle a produit du fruit, je vous dis, dans la prise de conscience et dans les débats qui ont été organisés un peu partout. Donc là, il y a pédagogiquement, je crois, un grand acquis, ce sont toutes ces réflexions autour du mariage, de la filiation, des enjeux de société, etc. Et donc ça, je crois que c'est déjà un bénéfice, intéressant. Même s'il n'y a pas de résultat politique immédiat, il y a déjà un grand résultat pédagogique.
À l'Assemblée nationale ont été auditionnés les chefs religieux ou les représentants des principales religions. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont l'avis, le regard des religions a été pris en compte dans le débat ?
Non, pas du tout. Vous savez comment ça s'est passé. Donc on a eu le sentiment que ces auditions étaient faites un peu en méprisant les religions, considérant que c'était marginal. Mais c'était avant la manifestation. Je pense que aujourd'hui, peut-être que les députés apporteraient un peu plus de considération au point de vue des politiques. Alors, il y a une grande confusion parce que on dit il y a la laïcité, mais c'est l'État qui est laïque, pas la société civile. Au contraire, dans la société civile, donc dans le monde des associations, plus il y a de participation à des débats, à des discussions, éventuellement même à des manifestations, c'est un signe de vitalité de la société civile. Il ne faut pas confondre le niveau de l'État et de la neutralité de l'État et la diversité des familles qui s'expriment dans la société civile. Je crois que là, il y a une réflexion qui est en train de se faire et qui est intéressante aussi.
Quelle est la suite pour l'Église catholique ?
Eh bien, d'encourager la réflexion, les débats, et puis ensuite, les organisateurs prendront leurs responsabilités. Ce n'est pas nous qui organisons la manifestation. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, la lettre qu'ils ont envoyée au président de la République. Ils demandent à être reçus, puis c'est eux, ensuite, qui prendront leurs décisions.
Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont. Autre sujet qui concerne directement les Français, c'est la tentative de libération de Denis Alex, membre des services secrets français, retenu comme otage pendant 3 ans par les Chebab en Somalie. Une opération des forces spéciales françaises a été menée le week-end dernier pour le libérer, sans succès. Cette initiative s'est soldée même par un fiasco. 2 soldats français ont perdu la vie, ainsi que l'otage. Sa mort a été confirmée par les autorités françaises dès l'assaut conclu et par les Chebab ce jeudi. Ce fait illustre la situation instable de la Somalie, dont le gouvernement ne contrôle presque rien et où les Chebab règnent encore sur la majorité du pays. Pourtant, cette tentative infructueuse ne doit pas masquer quelques signes d'espérance, selon Mgr Bertine, évêque de Djibouti et administrateur apostolique de Mogadiscio.
La situation en Somalie est, disons, dramatiquement, au moins pour les grands mass médias, s'est un peu réveillé pendant les derniers jours à cause de l'intervention militaire française qui cherchait à libérer l'otage là-bas et qui malheureusement est terminée avec la mort de l'otage même, d'autres militaires français et des civils somaliens. Et je dirais toutefois qu'il ne faut pas penser à la Somalie simplement de ce point de vue-là, disons strictement dans ce cas-là, de l'intervention française. En Somalie, à ce moment, il y a un processus de reconstruction de l'État et de la société qui a commencé il y a 3-4 mois. Et ce processus, naturellement, a besoin d'être accompagné et soutenu par la société, par la communauté internationale. Je regarde les événements avec un œil plutôt d'espoir. Naturellement, ça reste encore une résistance au-delà des grandes villes. Les zones, certaines zones rurales du centre-sud de la Somalie restent encore en partie dans les mains des Chebab et en partie dans l'anarchie. Je répète, la situation reste une situation difficile, mais avec espoir.
Des propos recueillis par Salvatore Sabatino. À la veille de l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a pour thème cette année « Ce que le Seigneur exige de nous », Benoît XVI a reçu jeudi midi en audience au Vatican une délégation œcuménique finlandaise, traditionnellement à Rome pour la fête de la Saint-Henri, patron de la Finlande. Benoît XVI a tenu à souligner que sur la route de l'unité entre les chrétiens, il fallait toujours plus être unis dans la prière, dans la poursuite de la sainteté, et s'engager davantage encore dans tous les domaines de la recherche théologique, de la coopération au service d'une société plus juste et fraternelle. Le pape, évoquant la déclaration commune sur la doctrine de la justification, a souhaité alors que la visite de cette délégation puisse aider à renforcer les relations œcuméniques entre tous les chrétiens de Finlande. Benoît XVI qui tweet maintenant en latin, qui devient ainsi la 9e langue utilisée par le pape sur ce moyen de communication. Premier message que nous vous traduisons, ta venue sur la page publique du souverain pontife Benoît XVI est la bienvenue. Environ 2,5 millions de personnes suivent dorénavant le pape sur Twitter, dont plus de la moitié en anglais. À Rome s'ouvre ce jeudi l'assemblée plénière du conseil pontifical Coronum sur le thème « Charité, nouvelle éthique et anthropologie chrétienne ». À cette occasion, le cardinal Sarah a donné une interview à l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège. Le président du conseil pontifical Coronum y affirme que le monde a une terrible faim de Dieu. Je dirais même, poursuit le cardinal, que la véritable faim dont souffre l'homme, sa souffrance la plus terrible, sont justement causées par l'absence de Dieu. Le cardinal, originaire de l'Afrique, revient sur la double peine imposée à l'Afrique, d'une part l'imposition d'un modèle économique et social par les donateurs d'aide occidentaux, et d'autre part l'imposition d'un modèle anthropologique étranger à l'Afrique. Olivier Bonnel.
L'idée de l'homme véhiculée par l'Occident et promue au travers de l'aide au développement conditionné apparaît à première vue consensuelle. Droit de l'homme, droit des femmes, égalité homme-femme, question de santé. Or, met en garde le cardinal Sarah, ces concepts ouvrent la route à une anthropologie où l'homme peut décider de lui en totale autonomie. Dans un monde moderne et technologique qui ne connaît pas de limites et de liberté qui n'admet pas de limites, ces concepts donnent à l'homme un sens d'omnipotence qui va jusqu'à se sentir en mesure non seulement de décider entre le bien et le mal, mais aussi de décider de sa propre nature, dénonce-t-il. Tout cela porte l'Occident à la décadence morale, ajoute le cardinal. Le problème va plus loin, considère-t-il. Cela remet en question plus radicalement le fait de savoir qui je suis. Face à cette offensive, le cardinal Sarah ne se sent pas désarmé. Nous pouvons rappeler notre vision de l'homme, un homme ouvert à Dieu et à l'autre, un homme qui n'est pas replié sur ses supposés droits propres, mais bien ouvert au don de l'amour. C'est dans cette optique que doivent travailler les organismes et les organisations avec lesquels collabore Coronum.
Olivier Bonnel, et nous suivrons évidemment cette assemblée plénière de Coronum dans nos prochains rendez-vous. Restons encore un peu au Vatican, qui a pris des allures d'arche de Noé ce jeudi. Comme tous les ans, à l'occasion de la Saint-Antoine du désert, patron des animaux, des éleveurs venus de toute l'Italie se sont donné rendez-vous devant la basilique Saint-Pierre pour exposer leurs vaches, coqs, chèvres, taureaux et autres lapins au regard des touristes et des passants. Après la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre par le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique, les animaux ont ensuite été bénis et mitraillés par les photographes présents et par notre reporter Manuela Figi.
Les abords du Vatican ont résonné de clameurs pour le moins inhabituelles ce matin. C'est en effet la fête de Saint-Antoine du désert, et comme chaque année, l'association italienne des éleveurs proposait sa traditionnelle exposition des animaux de ferme devant la place Saint-Pierre. Vaches laitières, lapins, chevaux, ânes, moutons, chèvres, dindons, poules et autres joyeuses bestioles se sont laissés photographier sans broncher pour la plus grande joie des touristes et des passants. Une visite vétérinaire gratuite était par ailleurs proposée aux propriétaires des animaux de compagnie. Après la messe votive célébrée en la basilique Saint-Pierre pour les éleveurs et leurs familles, le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique vaticane, est venu en personne bénir les animaux et les personnes présentes. L'occasion pour le cardinal de souligner la beauté de la création et l'émerveillement constant qu'elle doit susciter.
Parce que les animaux sont des cadeaux de Dieu.
La nature, l'environnement, la création.
La création, c'est le miroir dans lequel nous pouvons voir le visage de Dieu.
Il faut être aveugle pour ne pas voir que derrière la création se cache l'auteur, et il faut être fou pour ne pas l'adorer, a-t-il par ailleurs ajouté, avant de lâcher un pigeon voyageur apporté par un journaliste de la rédaction francophone de Radio Vatican. Une parade de chevaux et de cavaliers a ensuite remonté la Via della Conciliazione au son des tambours pour un spectacle tout de couleurs et d'élégance.
Un reportage de Manuela Affigi. La crise en Irlande du Nord évoquée devant le Parlement européen à Strasbourg par le Premier ministre de la République d'Irlande, Enda Kenny, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Il a réaffirmé aux eurodéputés que rien ne pourra briser les accords de paix en Irlande du Nord. Il a condamné ainsi les fauteurs de troubles qui tentent de les briser et a lancé un appel au dialogue chez son voisin du Nord. Que se passe-t-il donc exactement en Ulster? Eh bien, depuis 6 semaines, des protestants loyalistes manifestent pour réclamer le retour de l'Union Jack sur la mairie de Belfast. Le 3 décembre dernier, la mairie a en effet décidé de ne plus faire systématiquement flotter le drapeau britannique sur l'hôtel de ville de la capitale nord-irlandaise. Les protestants y ont vu une attaque contre leur identité. Or, ces manifestations sont souvent violentes. Plus de 110 policiers ont été blessés depuis le début de ces affrontements. Les loyalistes ont ainsi lancé des cocktails Molotov sur la police et ont aussi jeté des pierres contre l'église Saint-Matthews, qui est une paroisse située dans une enclave catholique proche du centre de Belfast. Le père Joseph Gunn, curé de Bangor, à 15 km de Belfast, nous donne son point de vue sur ces événements.
Le problème du drapeau n'est qu'un symptôme d'une malaise dans la communauté protestante. Et il faut reconnaître que c'est une question qui est un peu étrangère à un catholique, parce que c'est une question de l'identité de la communauté protestante. Et ce problème du drapeau est perçu, à mon avis, comme une attaque sur leur propre identité. Et pour les gens pauvres qui souffrent de la crise économique avec un taux de chômage qui est assez élevé, etc., ce problème fondamental est très personnel au lieu d'être politique. Selon mes homologues protestants, eux, ils disent que ces émeutes ont lieu dans les quartiers les plus pauvres et où les gens perçoivent très peu d'avantages suite au processus de la paix.
Est-ce qu'il y a une manière justement de dialoguer avec ces populations qui sont apparemment si frustrées? Est-ce qu'ils ont des revendications qui seraient précises?
Mon homologue protestant me dit qu'il va falloir beaucoup de négociations entre les membres de la communauté loyaliste ou unioniste elle-même. Et donc tout ça est un peu hors de ma connaissance.
Mais est-ce à dire que c'est à l'église protestante de travailler avec ces personnes? Est-ce que l'église catholique n'a pas elle aussi quelque chose à apporter?
L'église catholique veut bien n'importe qui est pour la paix, parce que ces problèmes peuvent entamer d'autres choses, faire revivre d'autres problèmes. Nous voulons encourager n'importe quel pas prêt pour trouver la paix, mais l'Église catholique ne peut rien faire parce que c'est un problème entre protestants et l'influence des églises protestantes est à voir. Parce que lorsqu'on emploie le mot protestant, on parle d'une foi entre guillemets ethnique au lieu de confessionnel. Donc les gens qui se proclament protestants ne vont pas à l'église forcément. Donc, l'influence des églises protestantes est inconnue.
En tout cas, c'est révélateur quand même d'un problème de fond, bien que les accords de paix aient été signés en 98, donc il y a quand même pas mal d'années. Qu'est-ce qui est mis en pratique aujourd'hui entre les deux églises pour pouvoir arriver à vivre ensemble, à cohabiter de manière plus pacifique?
Il y a plus de deux églises parce qu'il y a l'église catholique, mais il y a beaucoup d'églises protestantes, donc on ne peut pas simplifier et il faut élargir la compréhension de ce problème. Toutes les églises peuvent agir en faveur de la paix, mais au fond, c'est un problème économique, culturel et politique et communautaire. Le processus de paix a essayé de répondre aux gros problèmes, mais la vie dans la rue, la vie quotidienne, est une chose beaucoup plus complexe qui, comme partout, pose des problèmes difficiles à résoudre. C'est un grand défi aux leaders politiques de cette région.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Au Pakistan, fin du cauchemar pour Imsha Massi, cette jeune chrétienne de 14 ans, handicapée mentale, accusée faussement en août dernier d'avoir profané le Coran. Mercredi, en effet, la Cour suprême a définitivement acquitté la jeune fille. Le président de la Cour, le juge Iftikhar Muhammad Chaudhary, connu pour ses arrêts en faveur de la défense des droits des simples citoyens et contre la corruption de la classe politique, a ainsi confirmé l'acquittement prononcé par la Haute Cour d'Islamabad le 20 novembre 2012. Un des avocats a salué cette décision qui, selon lui, envoie un message positif à la communauté internationale, signifiant ainsi qu'au Pakistan, la justice peut être rendue équitablement pour tous. Cette heureuse issue ne doit pas faire cependant oublier les autres affaires de ce genre encore en suspens. Asia Bibi a ainsi passé son quatrième Noël en prison, dans l'attente de son procès en appel après avoir été, en 2010, condamnée à mort en première instance. C'est aussi le cas de Martha Bibi, une chrétienne elle aussi accusée de blasphème. Remise en liberté sous caution en 2007, elle attend toujours son procès en appel à Lahore. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.